mis à terre en moins d'une demi-journée. Marthe n'avait pas relevé les sarcasmes. Tout au plus lorsque sa belle-mère avait susurré qu'elle s'arrêtait bien souvent pour battre sa lame, et il était vrai que c'était alors de délicieux instants de repos à l'ombre, elle lui avait lancé en lui tendant la faux. Je sais ce que j'ai à faire, mais si vous voulez ma place, prenez-la. Proposition assez mesquine de sa part, car elle connaissait la faiblesse de la main gauche dont souffrait Octavine. Elle avait eu, 10 ans plus tôt, les doigts broyés par le coup de dent d'une truie qui venait de mettre bas et qui, croyant sa portée menacée, l'avait attaquée. Depuis, elle avait beaucoup de mal à serrer les doigts. La preuve, elle ne pouvait traire que de la main droite. Et si elle parvenait à tenir une fourche, il lui était impossible de bien manier une faux. Pour toute réponse, Octavine avait grommelé que le travail ne lui faisait pas peur, mais elle s'était bien gardée de prendre l'outil proposé. C'était donc Marthe qui avait fauché tout le jour. Et ce, malgré des courbatures et des douleurs de plus en plus violentes et une chaleur torride qui annonçait quelques orages. Mais au soir, comme prévu la veille par Jean, le champ était moissonné. Oui, mais j'ai bien cru ne jamais y arriver, se souvint-elle en reposant dans les braises un morceau de bûche qui venait de rouler. Y arriver à tout prix, coûte que coûte. Tenir malgré la fatigue et le découragement, telles étaient les phrases qu'elle se répétait tous les jours depuis 27 mois et demi. Elle avait pourtant eu bien souvent envie de crier grâce, de hurler qu'elle n'en pouvait plus, que le monde pouvait crouler, et elle avec, mais qu'elle ne transgresserait pas cette ligne de conduite qu'elle s'était à elle-même imposée. Y arriver, envers et contre tout, tenir. Et jusqu'à ce jour, elle avait tenu. Elle avait tenu, car outre ses propres problèmes, et ils semblaient sans fin, elle avait dû aussi réconforter Francette Fex, l'aider, la soutenir. Francette, l'épouse d'Édouard de la ferme du Pradel, sa voisine la plus proche, son amie de toujours. Du même âge qu'elle, elle avait été sa compagne de pupitre jadis, à l'école communale. Aussi bonnes élèves l'une que l'autre, elles avaient rivalisé pour décrocher les meilleures notes et le maximum de bons points, pourtant peu généreusement accordés par le maître. Mais la concurrence qu'elles se faisaient pour se placer dans les premières places n'avait jamais fait d'ombre à leur amitié. Et si les prévenances et l'attention que Jean portait à Marthe avaient parfois un peu agacé Francette, tout en éveillant en elle une once de jalousie, elle s'en était vite remise. D'ailleurs, étant la plus proche de Marthe, elle bénéficiait indirectement de la garde que Jean montait autour de sa protégée. Aussi, s'attendrissait-elle toujours au souvenir de ces temps où Jean était un des rares garçons de l'école qui ne se moquait jamais des filles, ne leur tirait pas les cheveux, ne les traitait pas en inférieurs. Le souvenir de Jean qui, à l'âge de 10 ans, était déjà aux petits soins pour Marthe, toujours prête à faire le coup de poing pour la défendre des plaisanteries parfois mauvaises des autres garnements. Et, dès cette époque, elle avait aussi compris que Marthe et Jean resteraient inséparables. Ensuite, après le certificat d'études, et une fois de retour dans leurs fermes respectives, elles n'avaient cessé de se fréquenter, et elles allaient ensemble aux bals les plus proches, où Marthe retrouvait Jean et où elle-même ne manquait jamais de cavalier. Depuis, toutes les deux appréciaient aussi beaucoup que leurs époux soient restés une paire d'amis. C'était d'autant plus satisfaisant qu'Édouard Fex n'était pas natif de la commune et qu'il ne partageait aucun souvenir d'enfance ou même d'adolescence avec Jean. Originaire de Perpezac-le-Blanc, à plus de 30 km de là, il venait donc de très loin, de l'autre bout du département. C'était presque un étranger. D'ailleurs, son patois n'était pas tout à fait celui de la région. Malgré cela, on le comprenait sans grande difficulté, même si certaines de ses expressions, son accent ainsi que quelques mots étonnaient parfois les autochtones. Il avait fallu que Jean s'en mêlât, lors de leur service militaire, pour que le Perpézacois vienne un jour à Costeblanc. Un samedi, profitant d'une permission de 24 heures, Jean l'avait invité à la fête votive du village. celle qui, tous les ans, en juillet, et en dépit des pressions et des sarcasmes des adulateurs et autres disciples de Combes, célébrait la Sainte Rufine, vierge et martyre, patronne et protectrice de la commune. À cette époque, Jean et Marthe avaient déjà fixé la date de leur mariage. En revanche, Francette, gracieuse et délurée jeune fille, était libre de toute attache. Aussi, les prétendants ne manquaient pas qui tournaient autour d'elle, attirés par son sourire, ses yeux noirs, sa jeunesse et ses formes graciles. Au grand dépit des jeunes gens de Costeblanc et des environs venus là pour le bal, qu'animaient un accordéoniste, un violoneux et un joueur de chabrette, la si mignonne petite Francette avait tout de suite succombé au charme d'Édouard, à ses yeux bleus et à son sourire mutin qui ne parvenait pas à masquer sa moustache brune aux pointes relevées. Il avait fière allure dans son uniforme rouge et bleu bien repassé, aux plis impeccables, et il valsait à la perfection. Beaucoup mieux que tous les cavaliers qu'elle avait connus jusqu'à ce jour, car sans jamais lui écraser les pieds, ni avoir les mains trop exploratrices et la laine douteuse. C'était ainsi que, 10 mois plus tard, Édouard était entré comme gendre à la ferme du Pradel, une bonne propriété de 8 hectares, riche d'une noyeraie de rapports, et comme chez Jean, de quelques chênes truffiers. Édouard avait été très bien accueilli par les parents de Francette. En effet, ceux-ci avaient été un peu dépités lorsque leur fille aînée, Madeleine, plutôt que d'épouser un paysan de la région qui eût remplacé le fils qu'il n'avait pu avoir, s'était entichée d'un tulliste. Commerçant de son état et très condescendant envers les gens de la terre, il ne fallait donc pas compter sur lui pour prendre la relève sur la ferme. Tel n'était pas le cas avec Édouard, époux et gendre attentionné. Très amoureux aussi, à tel point que, depuis son mariage, la petite Francette, naguère si mince, avait quelque peu épaissi. Car, avec une constance qu'elle jugeait parfois un peu excessive, Édouard lui avait fait 4 filles, de très gentilles gamines au demeurant, et qu'aimait bien leur père, qui, néanmoins, ne cachait pas son désir d'avoir enfin un fils. Dans cet espoir, loin d'employer les quelques élémentaires précautions qui leur auraient permis, à Francette et à lui, d'intimes ébats sans autre conséquence qu'un plaisir immédiat, il avait tout fait, et souvent, pour que s'annonce le 5e bébé. Celui-là, Francette en était certaine, serait un garçon. Or, en ce mois d'août, elle était enceinte de 7 mois, et son Édouard venait de partir. Aussi, malgré le soutien de sa mère et de son père, un vieil homme de 65 ans, heureusement encore ringambe, quoique se fatiguant vite, Francette se sentait perdue. Alors, en espérant que Marthe saurait lui apporter l'aide et le réconfort dont elle avait besoin, elle parcourut en se tenant le ventre les 300 mètres qui séparaient la ferme du Pradel de celle des Combettes. Il était encore tôt, pas même 6h30. Mais Marthe et sa belle-mère étaient déjà à l'étable. Octavine surveillait le veau qui tétait. Quant à Marthe, elle trayait la Violette, une vieille et bien encornée salerce, plutôt avare de son lait. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure ? S'étonna Marthe en voyant entrer son amie. Puis elle observa son visage défait, comprit qu'elle non plus n'avait pas dormi son aise. Devinant qu'elle ne parlerait pas devant Octavine, elle lui lança. « Je n'en ai pas pour longtemps. J'arrive. Tiens, si tu veux m'aider, va voir si la mémé a soigné la truie. Je viens. »« Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? » demanda-t-elle peu après, lorsque la traite faite et le soleil pas encore assez haut pour boire la rosée, elle pouvait disposer de quelques instants avant d'attaquer les gros travaux de la journée, la fin de la moisson. « Qu'est-ce qu'on va devenir ? » dit. « Qu'est-ce qu'on va devenir ? » demanda Francette.
« À propos de quoi ?»«
Les moissons. »«
Eh bien, on va les finir. Moi, à midi, ce sera terminé. »«
Pas chez nous. C'est impossible. Plus personne ne peut tenir la faux. »«
Comment ça ? Et ton père ? Je sais bien qu'il est vieux, mais en allant moins vite, il doit en venir à bout. »«
Justement, hier, il a oublié son âge, et ce matin, il ne peut plus bouger. Il n'a même pas pu se lever. Un tour de rein, sans doute. » Ma mère est partie au lever du soleil chercher le père Lacoste, le rebouteux de Nespoule. Mais on n'est pas sûr qu'il soit encore là. Il n'a pas 50 ans, cet homme. Alors avec leur territorial de malheur qui réquisitionne même les vieux, Et nous, on a encore 2 pièces de froment à couper, et personne ne peut le faire maintenant.
Et ta mère?